Donc, dans le Tantra Yana, c'est une méthode qui est incluse dans ce qu'on appelle le Vajrayana. Et le Tantra Yana, ben, on utilise comme base tout spécifiquement, tout particulièrement, on utilise une aptitude qu'a la conscience, c'est l'imagination. L'imagination, c'est le fait que l'esprit, à défaut de réalité, rien de réel se présente à l'esprit, tout est une représentation. On conçoit, c'est de l'imagination. On se représente, on a des images du monde, on a une image de soi, une image des autres. Ce n'est qu'image. Enfin, cette image. Ce n'est pas un pis-aller, ce n'est qu'une image. Non, c'est fabuleux. Il y a quelque chose de fabuleux dans cette capacité d'imagination. Cette imagination, dans le Tantra, on l'utilise en tant que réalisateur, acteur, auteur, metteur en scène. C'est ça la maîtrise. Dans le tantrisme, dans toutes les sciences contemplatives comme l'orthodoxie, le taoïsme, le soufisme, pour peu que je connaisse, c'est une science contemplative qui fait qu'on devient acteur de notre aptitude imaginale. Et dans le soufisme, on parle beaucoup d'imagination créatrice. Non pas que l'imagination invente, crée le monde, les phénomènes, on a une conception du phénomène. On a des images du monde, mais on ne crée pas le monde, la base. Donc dans le tantrisme, on utilise beaucoup l'imagination, qui est cadrée, bien sûr, c'est une science contemplative, elle est cadrée par des règles qu'on appelle le symbolisme. L'image qu'on va créer est symbolique, c'est-à-dire elle relève d'une qualité inhérente à l'esprit. D'accord. Et le fait d'amener nous-mêmes, de générer nous-mêmes l'image, la contemplation, fait qu'on va pas, on va pas subir une imagination à notre insu. Et cette imagination à notre insu, ça s'appelle le fantasme. Et le fantasme, c'est de l'imagination, mais à notre insu, d'accord, qui est poussée par les impulsions, comme je disais, d'accord. Tout ce monde d'impulsions, le monde du ça, on pourrait dire en psychanalyse, qui donc prendra l'image de nos attentes, de nos frustrations, hein, et de nos émotions perturbatrices, nos perturbations, nos distorsions, et ainsi de suite. D'accord. Donc, dans le Tantra Yana, à force d'avoir des transmissions de divinité, ben, il faut s'en servir. D'accord. Pour travailler cette aptitude imaginale de l'esprit. Et c'est ça le Tantra Yana, c'est plein de protocoles. Des protocoles où on joue avec l'illusion. D'accord. Parce que le tantra, c'est une thérapie où on utilise de l'illusion pour se désillusionner. Donc le fait même de rentrer dans un temple, comme on dit, et temple, c'est un terme qui nous est propre hein, en français, le terme en tibétain, c'est lakang, hein, la maison de la divinité. Là, c'est divinité. Kang, maison. On trouve le la dans Lhasa, la capitale du Tibet. Ça, c'est la terre, et là, la divinité, ou les divinités. Alors là aussi, il faut bien définir ce qu'on dit par divinité. Quelque chose de divin en soi, si on veut. J'ai beaucoup de mal à utiliser ce mot-là, hein, mais je veux bien l'utiliser, mais ce qui est important, c'est quel sens on met à ce mot. Le divin, la divinité. On peut dire qu'on a une la divinité, quand on parle de divinité, c'est de nous-mêmes que nous parlons, et non pas d'une divinité extérieure. D'accord ? La divinité, c'est notre part sublime, notre part, la part bio, naturelle, une fois qu'on a enlevé tous les virus, les artifices, les conditionnements, les illusions, la saisie, la soif, l'ignorance. D'accord ? Il faut se méfier de ce mot-là, parce qu'il est, hein, on a une propension à la croyance, hein, d'accord, à personnifier, hein, ces divinités en leur donnant une réalité d'individu. Ce serait des individus à part entière. Non, c'est faux. Hein. Mais le tantra utilise toute une hagiographie, hein, d'accord, qui sont mythiques, comme chez les Grecs, la mythologie grecque. D'accord ? C'est mythique, hein, n'a pas de réalité propre. Ça, on utilise les métaphores. Hein. Ça permet de transcender un peu notre existence ordinaire. Ça fait partie de la science contemplative, de mythifier. Hein, etc. Mais il ne faut jamais oublier que les divinités sont des représentations, des icônes, qui représente des qualités de l'esprit d'un individu, de chacun. Des qualités, et il faudrait mieux dire des aptitudes que des qualités. Là aussi, qualité, quelqu'un a des qualités, il a des défauts. Hein, ce n'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est des qualifications, on pourrait dire, hein, mais des aptitudes de la conscience. Des aptitudes qu'on utilise peut-être très peu, hein, ou qui viennent comme ça, de façon...
Des aptitudes de la conscience.
Ces aptitudes, des fois, elles s'élèvent comme ça dans des situations souvent d'urgence, etc. Alors je nuance toujours les mots, je propose plusieurs mots pour éviter de coller à un mot une connotation habituelle. Si on entend qualité, la connotation habituelle, c'est opposer qualité et défaut. Et c'est des termes de psychologie, enfin, de caractère d'une personne. D'accord ? Ah, celui-là, il a des qualités. D'accord ? Pas particulièrement des discriminations, peut-être pas. Au niveau purement psychologique au niveau de la personne, effectivement, il y a des personnes qui ont certaines qualités et ils ont aussi des défauts. On a tous, hein, d'accord. Ici, on parle de fonctionnement, des aptitudes, des compétences cognitives. Tu vois ? Par exemple, on pourrait dire, cette personne a la qualité d'être généreux. Et l'autre, il a le défaut de ne pas être généreux. On va dire peut-être économe, avare, je ne sais pas. Donc ce n'est pas ce terme-là qu'on veut utiliser. Hein. Le terme tibétain, c'est yunten. Yunten. On a traduit par qualité, alors on est obligé en français de mettre après une majuscule. Il y a tellement de majuscules en français, on n'est pas... L'allemand a des majuscules. Le moindre mot commun a une majuscule en allemand. En français, on n'a pas de majuscule dans les mots communs. Alors, les traducteurs sont obligés on est acculé à utiliser des majuscules pour bien signifier que ce n'est pas le mot qualité qu'on utilise. Vous voyez, c'est pénible. Hein. Traduire, c'est pénible. Hein. Et enseigner, c'est pénible. Alors moi, ça va, j'ai du tout mon temps pour expliciter les termes. Donc attention, le mot qualité, on peut l'entendre et on a des réflexes d'interprétation, d'acception du mot, connoté, et c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on utilise l'écoute et ensuite l'analyse. D'accord ? Et exiger de l'enseignant qu'on vous donne le sens du mot, mais ce sens définit une fonction de l'esprit. D'accord ? Parce qu'on peut vous dire, je vous donne la définition d'un mot, et puis c'est complètement mystifié, enfin, magnifié, et vous avez une belle définition du mot Bouddha, c'est un corps de lumière, ça ne vous avance à rien, d'accord ? Si on ne vous donne pas le fonctionnement, hein, qu'on va rencontrer quand on va méditer, pour l'identifier. D'accord ? Donc, au lieu de qualité, ben, je propose des synonymes, après on convient, et après vous pouvez utiliser ce mot qualité, parce qu'il est beau aussi, j'aime bien, ça résonne bien. Hein. Mais dans qualité, il faut voir aussi cet aspect de qualification, de compétence, comme un ministre, vous voyez hein. Et ben, la conscience a plusieurs ministères qui administrent des zones de cognition. Alors souvent, dans le New Age, on parle aussi de conscience modifiée. Vous voyez, c'est pas la conscience qui se modifie, c'est pas des états de conscience, c'est des compétences hein, qu'on va stimuler. Ça va? Le piège d'appeler conscience modifiée, ça donne l'idée de état, hein, une sorte de paroxysme. On va arriver à un paroxysme et de devoir y rester. D'accord ? Alors qu'il n'y a pas lieu de rester en quoi que ce soit. Si on reste, on stagne. Et dans état, c'est stagner. Nous, on parle simplement de déconditionner, enlever des voiles et avoir une plénitude panoramique de toutes ces aptitudes de la conscience. Après, on peut très bien vivre de façon très ordinaire. Je mange, je vois, vous voyez ? Hein ? Il n'y a pas besoin d'être dans des états spectaculaires de conscience. Là, il y a des erreurs. C'est attention à cet aspect Walt Disney, hein, d'accord ? Un corps avec une aura, etc. Hein, une personne qui rayonne de compassion. Ça, si vous voyez, vous ne verrez pas un Bouddha rayonner de compassion. Ce n'est pas comme ça, une petite lumière comme ça qui apparaît. Ah, c'est un Bouddha. Ça ne se fait pas, ça ne se voit pas. D'accord ? Donc derrière le mot conscience modifiée, des états de conscience modifiés, ça peut être trompeur aussi. D'accord ? Et on s'attend qu'une méthode puisse nous amener à des états modifiés. Si on arrive à un état modifié, il y a une pathologie. D'accord ? Il y aura la saisie, la soif et l'ignorance. D'accord ? Et on risque de rester dans cette saisie. D'accord ? C'est pour ça que je préfère les aptitudes qui, certains ont des virus, des bugs, des voiles, des fois c'est totalement inaccessible à certaines personnes. Donc il faut décrasser tout ça. Hein? Et une fois qu'on les a décrassés, ces aptitudes viendront en situation de façon opportune, en toute opportunité, en à propos. C'est ce qu'on a traduit par la sagesse toute accomplissante d'Amo Cassidy, vous vous souvenez ? Cette sagesse toute accomplissante, c'est encore une traduction française, hein ? C'est pas qu'elle est toute accomplissante dans le genre « je sais tout faire, ça y est, je suis un grand être éveillé, hein, il n'y a plus de secret pour moi, je décide de construire un temple, ça va marcher. » Non, si tu n'as pas le prêt de la banque, ça ne va pas marcher, hein, tout simplement. Hein, souvent, les personnes disent « si ça ne marche pas, c'est pas un éveillé. Hein, » par exemple. Donc la sagesse toute accomplissante, attention, c'est pas devenir Superman. Le vrai sens de la sagesse toute accomplissante en tibétain, c'est de mieux, c'est-à-dire qui a du sens. C'est-à-dire venir à propos, de façon appropriée. D'accord ? Ces aptitudes qu'on acquiert, ces intelligences, on peut les appeler aussi, ces intelligences qu'on a débloquées à la conscience, elles vont venir de façon appropriée. De la même manière, si vous tournez votre regard sur un objet, l'aptitude très naturelle de la conscience, c'est de devenir conscience visuelle. Vous comprenez ? Eh bien, c'est une aptitude. D'accord ? Cette conscience visuelle a l'aptitude de traduire quelque chose qui n'est pas visible, hein, qui est une pixelisation quantique, hein, qui, hop, par le biais d'un organe, hein, recalcule ça en quelque chose de visible
hein, dans les règles de notre espèce humaine. Vous voyez, c'est une aptitude, c'est une compétence, un ministère. Vous voyez, le grand gouverneur, c'est la base, tout l'esprit. Et ensuite, ce gouverneur ou ce président, si j'ose dire, hein, ou ce premier ministre, il a des ministres. Il délègue des compétences. Vous voyez ? Ça va ? Donc, ne jamais oublier que le tantrayana, hein, c'est une science contemplative parmi d'autres. D'accord ? On n'a pas l'apanage de cette science contemplative. D'accord ? On n'a pas de monopole. Hein. Mais en tout cas, on l'affirme. Elle est très explicite dans l'explication du tantra. Si c'est pas expliqué, vous changez de lama. Si vous entendez dire « il faut croire en Shenrezi, il va vous donner une bénédiction », là, on est totalement dans le déisme, le théisme, d'accord ? L'idolâtrie. Et on va aller au plus facile, le réflexe de s'adresser à une divinité extérieure. D'accord ? C'est pour ça qu'on trouve plein de protocoles dans le Tantrayana. Hein, les protocoles quand on rentre dans un temple, hein, ne serait-ce que faire Om Arung, rappeler les trois sauts du Trikaya qu'on fait quand on génère une divinité, ou quand on se génère soi-même comme divinité, on fait les trois sauts Om Arung, qui renvoie aux trois racines, Lama racine, Yidam racine, Daka, Dakini, protecteur racine, Om Arung. D'accord ? Ce n'est pas des petites formules comme ça magiques. Si on ne fait que réciter, il n'y a pas de puissance particulière dans ces lettres. D'accord ? C'est à nous d'investir d'un sens, d'une évocation, hein, etc. Et éventuellement, des rappels d'expériences qu'on a pu avoir pour approfondir, pour intégrer de plus en plus. D'accord ? Avoir des réflexes, des intégrations, de l'intégration. Donc il ne suffit pas de dire Om Aung. Hein. Om Aung, c'est le mantra clé. Moi, je ne fais que réciter Om Aung. Grosso modo, c'est le plus facile qui vient à l'esprit. Hein. On offre des bougies, on fait Om Aung, ce n'est plus des bougies. On modifie notre perception d'une bougie. Hein. Si on commence à croire qu'on offre des bougies à un Bouddha, c'est ridicule. D'accord ? Donc par Om Aung, on sublime, mais il faut que ça soit aidé de notre vue, d'une vue qui est une vue imaginale. Si on crée nous-mêmes l'image, d'accord, qu'on veut imposer à notre perception, à notre conscience. Et c'est comme ça qu'on va modifier nos perceptions et réaliser les différentes qualités de l'esprit. La clarté, la félicité, l'équanimité et éventuellement la vacuité. Donc c'est ça le vrai travail en profondeur. D'accord ? C'est pas s'asseoir et se dire « bon, je fais ma pratique ». Comme si qu'il y avait un devoir de rendre son travail, vous voyez. D'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on rentre dans un temple, ben, il y a certaines choses. Quand on se prosterne, d'accord, hein, c'est investi de plein de choses aussi, hein, d'accord, de sens, d'accord. On n'est pas en train de vénérer des statues, on n'est pas en train de vénérer une personne même, d'accord. On se prosterne, c'est les rappels de nos engagements, d'accord, de notre aspiration, hein, et la détermination que c'est moi le maître à bord, c'est de mon ressort si je dois m'éveiller, vous voyez. Tout ça, c'est dans une seule prosternation. On pourra en parler, si tu voulais, sur ce sujet plus tard, parce que c'est... Donc, on se prosterne, en l'occurrence, le lama vient enseigner, ben, il se prosterne devant son siège, il le consacre à être le siège, hein, d'un être qui prend, qui fait autorité dans son enseignement. Vous voyez ? C'est pas facile quand on commence à enseigner. Hein. Après, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Hein. Il suffit d'être naturel, de parler... Hein, dans l'idée de partager, transmettre, c'est partager, voilà. Quelle que soit la hauteur du trône, hein, je dis souvent, on n'est qu'assis que sur ses fesses, d'accord ? Donc il y a tout un protocole, hein, dans la prostration. Et moi, je vous invite, quand vous êtes chez vous, prosternez-vous devant votre siège. Hein. Et en vous prosternant, vous récapitulez tous les engagements, ne serait-ce que les trois joyaux, les trois racines, hein, et éventuellement vos samayas. Et vous vous asseyez sur le siège, vous ne devez plus être ordinaire. C'est-à-dire de votre perception ordinaire. Oui, mais je ne peux pas m'éveiller, machin, je suis nul. Non, c'est banni. En vertu du Samaya, par le biais de l'initiation, on vous a invité d'avoir une vue pure à vous-même. C'est-à-dire une vue sans discrimination, sans laisser passer les réflexes du karma souillé, hein, de se dire « je suis nul » ou l'inverse. « Moi, je suis un superman, je sais de méditer, etc. » Vous voyez, ça, c'est la discrimination, d'accord, qui voile, hein, qui encombre notre perception pure, la vue pure. D'accord. Donc tout ça, c'est un travail. Hein. J'insiste beaucoup, hein, dans mes enseignements. Hein. Vous m'avez déjà entendu le dire, ainsi de suite. C'est un travail de tous les jours. D'accord. C'est pour être dans l'attention, être consciencieux, conscient, hein, conscient et modifier nos perceptions par quelque chose de pur, c'est-à-dire sans discrimination. On s'assoit, au bout de quelques pratiques, au bout de quelques initiations, on récapitule tout au fait même de s'asseoir. On est déjà la divinité. D'accord ? Donc, moi j'invite les personnes à se prosterner devant leur siège, leur place où ils vont se méditer, comme le siège, hein, qu'on appelle le siège Vajra, dans Jeden, hein, où s'est assis Sakyamuni, hein. Quand Sakyamuni, il vient s'asseoir, hein, sur son siège qui deviendra la place de son éveil, hein, la Bodh Gaya, il dit, enfin, son attitude c'est, je m'assois une fois pour toutes. Il dit pas, tiens, je vais faire ma petite pratique. Je m'assois une fois pour toutes. On s'assoit, il faut avoir l'attitude que c'est votre dernière pratique. On pratique une fois pour toutes. Si je rate, je vais devoir refaire une pratique. Mais on n'a pas de pratique à rendre comme ça. Bon, ben, maintenant j'ai une pratique, je vais faire ça toute ma vie. Vous êtes foutus. Vous avez déjà fait une échéance de toute une vie de pratique. Non, dites-vous, il faut que je pratique, hein, très rapidement, il faut que j'aie l'éveil. Et après, vacances. Non, mais c'est ça. Il y a une vie après l'éveil. D'accord ? On n'est pas là pour pratiquer toute sa vie. On n'est pas là pour payer des stages toute sa vie. D'accord ? Une fois pour toutes, déjà, ça y est, on est rentré dans ce qu'on appelle le véhicule Vajra. Dire, on rend rapide, d'accord, notre approche. On stimule toutes nos compétences, toutes nos aptitudes de conscience. D'accord ? Vigilance, vif d'esprit, alerte, etc. Si on commence avec, oh, il faut que je pratique encore, mais j'y arrive pas. Vous êtes foutu. Vous êtes dans votre karma habituel, ce qu'on appelle le karma souillé, hein, des conditionnements, des schémas, des plis, hein, de perception de soi-même. Et puis après, on va avoir une perception de la pratique. Et puis après, on va avoir une idéalisation de quelqu'un qu'on estime, oh, exemplaire. Vous voyez. Et puis on va déléguer dans les modèles. Hein, les grands maîtres, les gens qui disent les grands maîtres, oh, c'est un grand maître. Vous voyez. Cette délégation. Hein, qui fait qu'on a un regard de petitesse pour nous, peut-être. Oui, ben ça, c'est indigne. C'est de la discrimination, hein, qui cautionne, qui fait prétexte à la paresse de se dire ben, « je suis nul voilà. ». Dans le Vajrayana, on dépasse cette discrimination. D'accord ? On met en stimulation des aptitudes à la conscience. faut voir cet aspect de nativité naïve dans cette vue pure. De la même manière qu'un enfant, hein, indifféremment, sans complexe, il peut se prendre pour le grand shérif, un grand cow-boy, plein de courageux. Il ne va pas mettre en place, oui, mais je ne suis pas digne, machin. On joue avec cette part imaginale. D'accord ? Alors ça ne suffit pas, mais c'est un départ pour sublimer déjà notre perception de nous-mêmes. Et c'est ça que l'initiation tantrique nous invite. On vous donne l'autorisation de vous sublimer par l'imagination. On vous dit, ayez la vue pure, voyez, en l'occurrence, celui qui donne l'initiation, comme étant le Yidam divinité, Shenrezi par exemple, mais il vous renvoie à l'ascenseur. Maintenant, ayez la vue pure pour vous-même, voyez-vous, on vous autorise, on vous donne autorité, hein, de vous percevoir comme étant le Yidam Shenrezi, parce que c'est une réalité. C'est pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour stimuler notre nature inhérente. D'accord ? Et ensuite, on vous demande aussi, en guise de Samaya, de base, d'avoir une vue pure pour tous les êtres. Tous les êtres ont cette nature de Shenrezi. D'accord ? Souvent, en plaisantant, je dis souvent, on a tous quelque chose de Shenrezi. D'accord ? C'est un peu ça. D'accord ? C'est ça le tantrayana, c'est arriver à cette vue pure pour tous les êtres, et tous les êtres deviennent le lama racine, le yidam racine, les daka, dakini racine. C'est-à-dire on va dans le fondement même de chacun d'entre nous. On participe tous de la même nature. C'est vrai que le tantrayana utilise, hein, du vocabulaire bien spécifique, philosophique, spirituel. C'est pour nous aider. Hein. Ensuite, dans le vajrayana, dans le tantrayana, qui fait partie du vajrayana, hein, bien sûr. Dans le tantrayana, bouddhique en tout cas, on a aussi des objets rituels. Ça fait partie du show. D'accord. Et chaque objet, hein, ont leur signification. C'est nous qui mettons une signification à ces objets, c'est pas les objets qui ont en essence cette signification. On en parlera plus en détail tout à l'heure aussi, de ces objets, mais vous êtes assis sur le siège Vajra. N'attendez pas de lire le texte pour vous prendre pour la divinité. Enfin, vous prendre pour la divinité, c'est entre guillemets. Hein, d'accord ? Pour vous changer vos schémas de représentation. D'accord ? Mettez de côté ce que vous pensez de vous-même. Ne vous pensez pas. D'accord ? Laissez votre conscience, elle a cette aptitude, hein, d'avoir une représentation de vous-même. D'accord ? Mais changez les règles. D'accord ? Ça va ? Si on y ajoute nos représentations dues à nos attentes, à nos peurs, à nos discriminations, d'accord ? Vous aurez les mêmes règles, les règles du karma souillé depuis des temps sans commencement. Changez les règles, mais l'aptitude qu'a l'esprit d'avoir une représentation de soi, parce qu'il n'y a pas une personne réellement originelle. D'accord ? C'est une fluctuation de représentation, la personne. D'accord ? Mais vous toucherez cette aptitude naturelle, la conscience vous proposera de façon appropriée une représentation de vous-même en lieu, en situation, en fonction de la personne. Si vous avez votre femme, vous avez une représentation de vous-même. Hein, relative, pas absolue, relative à une situation d'être avec votre femme, avec votre enfant, avec votre patron, avec votre ouvrier, je ne sais pas, vous voyez, avec votre élève, avec votre maître, vous voyez, ça va, hein. Et c'est ça, cet aspect de, on dit, sagesse tout accomplissante, est tout opportune. Elle, la conscience a une capacité, une aptitude, d'accord, d'être appropriée. D'accord. Mais cet aspect de conscience, cette attitude à conscience, on a du mal à l'avoir, parce qu'on voudrait se définir en absolu. Et se définir en absolu, l'autre. Il est patron, donc moi, vous voyez, et on crée des schémas. Soit de rébellion, refus d'autorité, d'accord, ou alors soumission. Mais l'un ou l'autre, c'est un piège. D'accord. Il n'y a pas une relation d'équanimité d'un être à un autre être. D'accord. Avec certainement des compétences pour être devenu patron, peut-être. Mais un ouvrier a autant de compétences, hein, peut-être pas les mêmes. D'accord. Et ainsi de suite. Ce qu'on vise, c'est le naturel. Ce sens de naturel est déjà dans ce mot sahaja. Hein. De façon littérale, sahaja veut dire co-émergent, mais c'est notre état naturel, cette co-émergence. C'est l'état naturel, le fonctionnement naturel de l'esprit. Hein. Il y a toujours une co-émergence. Si on ne reconnaît pas cette co-émergence, on crée une dichotomie, une opposition. D'accord. Et cette opposition va renforcer la discrimination et satisfaire notre soif, c'est-à-dire la soif d'être définitivement défini, c'est-à-dire se trouver en termes d'entité, d'absolu.